Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'université et la recherche s'arrêtent ce jeudi. Voici l'appel lancé par tous les syndicats de chercheurs. Ils protestent contre la loi de programmation pluriannuelle et leur précarité. Elle est grandissante, vous l'entendrez.
En Italie, c'est à cause du coronavirus que les écoles et les universités sont fermées. Cela doit durer 10 jours.
Comment se défendre sans trahir son mentor, François Fillon ? Exercice d'équilibriste pour l'ancien député Marc Joulot hier au tribunal. Compte rendu d'audience à suivre.
Nous irons ensuite à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine reçoit son homologue turc. Ils doivent évoquer un possible cessez-le-feu en Syrie.
Et puis nous irons en Grande-Bretagne pour comprendre pourquoi la BBC pourrait perdre son financement. Une réforme de la redevance inquiète. Ils vont déserter les laboratoires, les amphithéâtres, les salles de cours. Les chercheurs se mobilisent aujourd'hui contre la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dite LPPR. Le mouvement est lancé par des syndicats, des collectifs et autres coordinations. Ils dénoncent encore une précarisation massive de l'enseignement supérieur et la diminution des financements. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accentue à leur choix.
Cette action du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche s'inscrit dans un combat de près de 15 ans, commencé au moment de la loi LRU, la loi Pécresse, censée donner aux universités leur autonomie. Pour beaucoup d'entre elles, elle a surtout été synonyme de baisse de financement. Pascale Dubu est membre du collectif ROG-ESR, enseignante chercheuse spécialiste de l'histoire de l'art à la Sorbonne. Elle voit dans cette LPPR la continuation des réformes précédentes.
Ce qu'on nous dit, c'est comment vous vous plaignez alors qu'on va vous donner de l'argent. Est paru récemment un rapport de pilotage sur la maîtrise de la masse salariale qui est effrayant, où en fait la seule chose qu'on demande c'est de faire des économies, de ne pas renouveler les départs à la retraite. Ça veut dire qu'on n'aura pas plus d'argent. Enfin, c'est un double discours.
Cette loi darwinienne réclamée par le PDG du CNRS pourrait favoriser les laboratoires les plus performants à l'échelle internationale. Une performance qui aujourd'hui s'évalue en fonction du nombre de publications. Un mauvais indicateur, selon Johanna Siméan, membre du même collectif, politiste à l'École normale supérieure.
Le comité d'éthique du CNRS soulignait le risque pour l'éthique et la qualité de la recherche de la course au contrat, à la publication plus vite que tout. Et on a vu dans certaines des grandes affaires de fraude de ces dernières années que la publication à Publisher Perish, elle favorise le plagiat et elle génère des effets de conformisme, d'opportunisme au simple niveau des revues. Ce ministère, on a l'impression que la seule chose qu'il trouve positive à proposer aux enseignants-chercheurs, c'est de la décharge de cours, comme si c'était mineur et pas bien de faire de l'enseignement, comme si c'était la tâche qu'on allait le plus sous-traiter aux précaires. À côté de ça, toutes les tâches bureaucratiques, d'évaluation, de remplissage de choses qui n'ont aucun sens augmente dans toutes les parcelles du métier.
Un rassemblement a lieu ce matin à 11h devant la Sorbonne.
Et d'ici là, pour en savoir plus sur ces demandes, retrouvez l'entretien avec les deux chercheuses rencontrées par Anne Lorchouin sur notre site franceculture.fr dès ce matin. Par ailleurs, ce soir, Emmanuel Laurentin se demandera dans le temps du débat comment faire redémarrer l'université. Ce sera à partir de 18h20. Et les chercheurs sont bien utiles en ce moment au gouvernement face à la propagation du nouveau coronavirus, le Covid-19. Emmanuel Macron d'ailleurs recevra cet après-midi à l'Élysée une trentaine de chercheurs, de médecins, de responsables de laboratoires. Alors, pour se protéger de ce coronavirus, l'Italie, elle, prend déjà des mesures exceptionnelles après la contamination de plus de 3000 personnes et la mort de 107 patients. Toutes les écoles, toutes les universités du pays sont fermées jusqu'à la mi-mars, Bruce de Galzin.
Pas d'école pendant 10 jours et des cours assurés à distance, promet la ministre de l'Éducation. Mais rien n'est moins sûr pour les écoles et les familles qui ne sont pas équipées de tablettes ou autres technologies. Des familles qui réclament des aides financières pour garder les enfants ou un congé parental exceptionnel. La fermeture des écoles et universités doit permettre d'éviter que le virus se propage davantage, car le président du Conseil, Giuseppe Conte, reconnaît la fragilité de son système de santé.
Nous avons des hôpitaux et un système de santé qui, aussi excellent et efficace soit-il, risque d'être surchargé. Et c'est évidemment un problème que nous ne pouvons pas résoudre à court terme. Car vous l'aurez compris, le problème, ce sont les soins intensifs, si bien sûr une crise de plus grande ampleur devait se produire.
Et c'est le sud du pays qui est visé. Pour l'instant, il résiste. Moins de 100 personnes sont contaminées au sud de Rome et seulement 3 sont en soins intensifs. Des soins intensifs qui ne pourraient pas traiter autant de cas dans le sud que dans le nord de l'Italie.
Voilà pour les inquiétudes du moment de l'autre côté des Alpes. En France, le bilan est de 285 cas confirmés, dont 73 ces dernières 24 heures, notamment en Guyane. Nous apprenons à l'instant qu'un prix maximum a été fixé pour le gel hydroalcoolique en France. 3 euros maximum, pas plus, pour les 100 millilitres, selon un décret qui doit paraître demain. Toutefois, il n'est toujours pas question d'élever le stade de vigilance, ni même de repousser les élections municipales qui sont prévues dans 2 semaines. Cet après-midi, une réunion au ministère de la cohésion des territoires devrait rassurer les élus locaux sur ce point, Rosalie Lafarge.
Pour repousser les élections, il faudrait vraiment qu'on soit en temps de guerre, assure un conseiller ministériel. Manière de dire, comme le martèle le gouvernement, il n'est pas question de décaler les municipales. En revanche, au cabinet du ministre Lecornu, on se dit prêt, évidemment, à accompagner les maires pour assurer le bon déroulé du scrutin. Des mesures de précaution pourraient être prises dans les bureaux de vote pour éviter les files d'attente trop compactes et inciter, voire forcer les électeurs à se laver les mains au gel hydroalcoolique. Mais à ce stade, la situation n'exige pas forcément beaucoup plus, laisse entendre l'entourage de Sébastien Lecornu. L'important, c'est de répondre aux questions des élus locaux. Et ils en ont des questions. Comment protéger nos assesseurs? Est-ce qu'on doit désinfecter le stylo après chaque émargement? Aura-t-on assez de produits pour le faire, énumère un élu de l'Indre. Pour l'instant, il n'y a pas de consigne collective pour la tenue du scrutin. C'est ce que viennent chercher plusieurs associations pour qui l'absence de mot d'ordre général entretient une certaine forme de panique. Et la panique est la meilleure amie de l'abstention, poursuit un cadre d'une des formations conviées. Il plaide pour une communication ministérielle positive. Un bureau de vote, ce n'est pas un concert de Madonna, ce n'est pas la même concentration de personnes, pas le même temps d'attente. Il faut, dit-il, éviter de faire peur aux électeurs en leur faisant croire qu'ils risquent d'attraper le virus dans l'isoloir.
Et à l'approche de ces municipales qui donc sont maintenues à l'heure actuelle, voici un sujet qui revient souvent dans les thèmes de campagne, la mobilité et les transports en commun. Faut-il les rendre gratuits ? Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Catherine, on trouve cette proposition dans de nombreux programmes.
C'est le cas à Caen, Perpignan, Metz, Toulouse, Brest ou encore Poitiers. À travers toute la France, des candidats promettent des transports publics gratuits, comme cela existe déjà dans 35 villes. Le mouvement est déjà ancien. La nouveauté, c'est que ce sont des villes de plus en plus grandes qu'il envisage, emboîtant le pas à Niort, 125 000 habitants, et surtout Dunkerque, 200 000 habitants, où la mesure a déjà été mise en place. Si la proposition a du succès, c'est parce qu'elle peut sembler vite payante, remarque Bernard Soulages. Il préside le conseil scientifique du GART, qui rassemble les autorités responsables de transport.
Si vous prenez aujourd'hui quelque chose qui soit capable de changer la vie de gens, qui soit du ressort directement des autorités locales, et notamment des maires ou des présidents d'agglomération, quelque chose qui puisse avoir un impact immédiat, vous n'avez pas beaucoup de mesures aussi spectaculaires qui peuvent être prises par une collectivité.
Alors tout de même, Catherine, à travers une étude, cette association d'élus émet aussi quelques réserves.
Oui, elle s'interroge sur la pertinence pour les grandes villes, les réseaux de transport déjà très sollicités pourraient s'y retrouver saturés, ce qui finalement découragerait d'y avoir recours. Cette étude rappelle aussi que la gratuité est en réalité un transfert de charges vers les entreprises ou les citoyens. Une critique que Maxime Huret, maître de conférence en sciences politiques à Perpignan et spécialiste des politiques de mobilité, renvoie lui au débat politique. Il s'agit là, estime-t-il, de choix d'investissement et d'affectation des ressources publiques.
La mise en place de la gratuité, c'est une politique globale qui va à la fois toucher les transports, mais aussi toucher l'aménagement de la ville, puisqu'on va souvent vouloir redynamiser les centres à travers des piétonnisations, développement du vélo, et également, on va souvent améliorer l'offre, puisque globalement, les villes qui ont mis en place la gratuité vont investir aussi massivement dans les réseaux de transport collectif. Dunkerque a investi en même temps que le passage à la gratuité. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un véritable choix politique, la gratuité, d'investissement dans le transport collectif.
Un choix qui se heurte souvent aux réticences d'acteurs, opérateurs, systèmes de billetterie, dont les modèles économiques et les fonctionnements seraient modifiés. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets durables de la gratuité sur le comportement des gens et l'usage de la voiture. Une chose est sûre, la qualité de l'offre de transport fait partout la différence et l'améliorer demande un travail de long terme.
D'où les propositions en masse des candidats à propos des transports. Merci beaucoup Catherine Pétillon. Je précise par ailleurs que dans son billet politique après ce journal, Frédéric Seyss reviendra sur la soirée de débat hier entre les candidats à la mairie de Paris. La discrète assistante et le suppléant timide. Voilà qui était à la barre hier dans le procès Fillon. L'épouse de l'ancien Premier ministre, Pénélope Fillon, répond toujours d'abus de biens sociaux autour d'emplois présumés fictifs. L'ancien député Marc Joulot est également soupçonné. Il avait aussi embauché Pénélope Fillon comme assistante parlementaire et il s'est hier longuement exprimé, Antoine Maret.
Dans son esprit, Marc Joulot est resté le suppléant fidèle et discret de François Fillon. Tel un funambule, il tente de minimiser son rôle dans le recrutement de Pénélope Fillon, tout en essayant de ne pas accabler François Fillon. Quand il devient ministre en 2002, ce dernier lui cède le poste de député, tout en lui précisant vouloir poursuivre sa collaboration avec son épouse pour former une équipe à trois. Une équipe avec un chef clairement identifié. Depuis son ministère, François Fillon remplit le contrat de travail de sa femme en se permettant même la liberté d'augmenter son salaire. Marc Joulot ne trouve rien à y redire. Celui qui a la légitimité, c'est celui qui a été élu. C'est lui le patron, se justifie-t-il. Quant au rôle de Pénélope Fillon, il est toujours aussi oral. Marc Joulot avait une connaissance technique. Il connaissait les élus de la circonscription, mais il lui manquait la relation humaine, la connaissance des habitants. La femme de son patron servait donc de relais. Mais quand il s'agit d'être plus concret, de donner des exemples précis sur son rôle, Marc Joulot est à la peine. De même, quand la présidente lui demande d'expliquer l'absence de congé de Pénélope Fillon, il explique « Quand je deviens député, je n'ai que 34 ans, c'est mon premier mandat, et puis c'est Madame Fillon, je reconnais maintenant que cela manquait de rigueur et de formalisme. »
Antoine Marette au tribunal correctionnel de Paris pour France Culture. Le couple Balkany ne retrouvera sans doute pas la vie politique. Il est condamné à 10 ans d'inéligibilité dans le volet fraude fiscale pour le procès. Patrick et Isabelle Balkany, anciens maires, anciennes adjointes à Levallois-Perret, ont également été condamnés à 3 ans de prison ferme, sans mandat de dépôt cette fois. Ils n'iront pas en cassation.
La suite du journal de Clara Lecoq-Réal à 8h11 sur France Culture. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est reçu aujourd'hui par son homologue russe Vladimir Poutine.
Oui, et les deux hommes vont tenter d'obtenir un cessez-le-feu en Syrie, dans la région d'Idlib, car les Turcs sont engagés contre le régime de Bachar el-Assad et les Russes soutiennent militairement Damas. Cela met pratiquement les deux puissances face à face, alors que les deux présidents se ressemblent à plusieurs égards, Claude Bruyot.
Une photo de Recep Erdogan en blouson de cuir noir en train de dédicacer le fuselage d'un drone de l'armée de l'air turque illustrait hier l'analyse du quotidien indépendant russe Nezavissimaya Gazeta. Cette image de la confiance d'un chef en son armement et sa démonstration de proximité envers ses troupes aurait pu s'appliquer tout aussi bien à Vladimir Poutine. Pour nombre d'observateurs à Moscou, aucun des deux présidents, qui se mue à chaque occasion en chef militaire, ne souhaite véritablement de confrontation directe, eu égard évidemment à la somme d'intérêts communs, qui lie littéralement sur des aspects notamment géostratégiques et économiques les deux puissances l'une à l'autre. Pour autant, côté russe, des experts relèvent que la Turquie ne cesse depuis 2 mois d'amasser des véhicules blindés et des troupes au nord de la Syrie pour renforcer ses capacités à combattre l'armée de Damas, plus que jamais soutenue par le Kremlin. Et certains de ces experts de conclure que seule une démonstration de la supériorité de l'armement militaire russe pourrait stopper les initiatives d'Ankara. L'objectif annoncé de Recep Erdogan visant à obtenir un cessez-le-feu aujourd'hui est regardé ici avec beaucoup de prudence, même si Vladimir Poutine est depuis longtemps passé maître dans l'art de profiter d'un accord aussi fragile serait-il pour valider ses acquis sur le terrain.
C'était Claude Bruyot depuis Moscou, alors que l'ONU demande déjà une solution diplomatique immédiate en Syrie. L'Organisation des Nations Unies, qui perd par ailleurs l'un de ses anciens secrétaires généraux, le péruvien Javier Pérez de Cuellar, qui avait joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 80, il est mort cette nuit à l'âge de 100 ans. Encore une compagnie aérienne à terre, la britannique Flybe a été placée en redressement judiciaire et cesse donc immédiatement toutes ses activités. Compagnie régionale en Grande-Bretagne qui employait 2000 personnes. Et nous restons en Grande-Bretagne avec la BBC qui est apparemment en crise. Suppression d'emplois, diminution de la redevance, la société de production radio-télévision est surtout remise en question par le nouveau gouvernement de Boris Johnson. Sa renommée n'y change rien, Élodie Goulesque.
Il est incontournable. Le jingle de la BBC est connu à travers tout le Royaume-Uni et pour cause, chaque semaine, 90% des Britanniques la regardent, la lisent ou l'écoutent. Mais le média public est en crise. C'est en tout cas ce que pense John Mayer, auteur du livre « La BBC est-elle en péril ?». La menace, selon lui, vient de Boris Johnson et son redoutable conseiller principal, Dominic Cummings.
Ils pensent que la BBC leur est hostile et que la critiquer les rend populaires. C'est brutal, viscéral. Ils veulent juste casser la BBC.
Dans la ligne de mire du gouvernement, la suppression des 177 euros de redevances annuelles que paye le contribuable et qui constitue 75% des revenus de la BBC. Selon Rob Wilson, ancien député conservateur, le problème vient aussi du cœur même de l'institution.
Il y a trop de gens dans l'institution qui pensent la même chose. Ils ont une vision libérale et métropolitaine du monde, qui ne représente en aucun cas une grande majorité de personnes.
Mais la crise n'est pas récente. En 2016, la BBC annonçait devoir faire plus de 900 millions d'euros d'économies d'ici à 2020. 450 postes vont être supprimés dans le service d'information au courant de l'été.
Revenons maintenant en France métropolitaine. Pour le temps de ce jeudi, c'est assez simple, il y aura de la pluie partout. Avec 6 degrés ce matin à Dijon, 7 à Lille, 9 à Paris, 10 degrés à Marseille et 15 à Bayonne.
Simple, c'est un peu triste quand même, Clara Lecoq-Réal. 8h15 sur France Culture. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez Mes Camarades, la transition d'Hervé et Gardette, consacrée notamment au radiateur. Madonna, la chanteuse, sera dans la théorie culturelle de Mathilde Serrel. Aurélien Bélanger nous livrera sa conclusion sur le féminisme. Et puis, il sera largement question du féminisme, puisque nous serons en compagnie dans quelques instants de la grande historienne Michèle Perrault. Elle publie « La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public » aux éditions Textuel, et un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi s'agit-il aujourd'hui ?
On disait le clivage gauche-droite enterré, eh bien les municipales parisiennes sont en train de le ressusciter.
Allez, dans quelques instants, 8h16 sur France Culture.